voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, après la crise sanitaire, faut-il craindre une crise alimentaire? Pas pour l'instant, mais la menace est forte car quand les frontières sont fermées, les denrées alimentaires ne circulent plus et les prix augmentent. D'après la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, à cause du Covid-19, le nombre de personnes en crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest pourrait passer de 17 à 50 millions entre juin et août prochain. Alors que les tribunes se multiplient sur ce que sera le monde d'après cette pandémie, une question se pose: comment garantir la souveraineté alimentaire de son pays? Eh bien, cela commence par la gestion des semences. Sont-elles une marchandise comme les autres ou un bien commun? Aujourd'hui, une dizaine de multinationales contrôlent 75% du marché mondial des semences. Mais un peu partout, la résistance s'organise du côté des paysans pour préserver leurs semences traditionnelles. Nous vous emmènerons en Colombie où des réseaux inspirants se sont organisés. Et avec nos invités de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, nous verrons quelle est la situation en Afrique de l'Ouest.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Paul Sikeli.
Bonjour Anne.
Vous êtes le secrétaire exécutif de la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain, que je vous laisse nous présenter.
La COPAGEN, c'est la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. La COPAGEN, c'est un mouvement associatif citoyen qui est représenté dans 9 pays, les 8 pays de l'espace UEMOA. Donc la COPAGEN s'est donné entre autres missions de protéger les droits des communautés sur leurs ressources génétiques.
Bonjour Issouf Sanou.
Bonjour Anne.
Vous êtes le coordinateur de la Fédération nationale des organisations paysannes du Burkina Faso. Alors avant de parler des semences, je voulais savoir si vos observations de terrain, vous ressentez la menace de la crise alimentaire dont parle la CEDEAO.
Effectivement, au niveau de la base, il faut se dire qu'avec la quarantaine, la fermeture des frontières, les paysans, déjà ceux qui font l'agriculture conventionnelle, ont quand même du mal à s'approvisionner en intrants. Et le second problème aussi, il faut reconnaître que par rapport à la commercialisation des produits maraîchers, c'est-à-dire de contre-saison, les producteurs ont eu effectivement des difficultés puisqu'ils ne pouvaient pas venir dans les villes pour commercialiser ces produits qui étaient des denrées périssables. Donc, les producteurs ont subi déjà une perte. Or, l'argent de ces produits permettait de vivre en période de soudure que nous sommes là-dessus, c'est-à-dire à quand on va commencer bientôt ou bien même on est dedans demain à juillet.
Alors Jean-Paul Sikeli, les semences, c'est un enjeu vraiment essentiel de sécurité alimentaire?
Effectivement, les semences sont un enjeu vraiment stratégique pour l'alimentation, pour l'agriculture, parce qu'en réalité, indépendamment des qualitatifs, il faut dire que les semences sont le premier maillon de la chaîne agricole. Donc, celui qui contrôle la semence contrôle et l'agriculture et l'alimentation. Pour la COPAGEN, ce qui est important de faire, c'est de préserver au mieux la semence paysanne. Parce qu'en réalité, il y a deux systèmes semenciers qui cohabitent, le système semencier conventionnel et le système semencier paysan. Donc, nous sommes plus dans l'approche de préservation du système semencier paysan. Parce qu'en réalité, les statistiques montrent que 70 à 90% des semences utilisées sont paysannes. Mais malheureusement et paradoxalement, ces semences-là ne sont pas soutenues par les pouvoirs publics. D'où la nécessité, en tout cas pour les organisations membres de la COPAGEN, de préserver ces semences-là.
Alors avant de rentrer plus en détail dans la gestion des semences en Afrique de l'Ouest, je vous propose d'aller en Colombie, où comme dans de nombreux pays, des groupements de paysans s'organisent pour préserver leurs semences traditionnelles en créant des réseaux pour les recenser, les valoriser et défendre les savoir-faire qui leur sont associés. Pierre Lefebvre nous emmène dans l'ouest du pays, dans la région du café, près de la ville de Pereira.
Bonjour à toutes et à tous.
Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à cet atelier.
L'idée,
c'est que ça va nous servir pour construire le réseau. Ce réseau, c'est le vrai réseau. Le réseau du projet peut être prévu sur le papier, mais le vrai réseau, c'est celui que vous allez construire à partir des semences. Et c'est celui-là que nous voulons voir fonctionner réellement. Ces relations que vous allez construire entre vous, ce sont elles qui doivent être permanentes. Les projets ne font que passer, mais ce que nous voulons vraiment dans le futur, c'est que ce réseau fonctionne de façon autonome.
Muy buenos días, mi nombre es Susan Saavedra. Yo soy ingeniera agrónoma y hago parte pues del equipo de la RECAP que está apoyando el proyecto de semillas en Antioquia.
Nous sommes à Pereira, en Colombie. Mauricio Garcia, qui anime cet atelier, travaille pour l'ONG Suicide Colombie, basée à Bogota. Il est un peu la cheville ouvrière du projet Resemina, un projet qui vise à construire un réseau national de maisons de semences traditionnelles. Il s'agit ainsi de faciliter la préservation, l'échange et la vente de ces semences. Il parcourt donc sans cesse le pays pour rencontrer les réseaux locaux déjà existants et les aider à se structurer et à s'organiser en un grand réseau colombien. L'objectif du projet est de maintenir vivantes ces semences qui pourraient demain disparaître.
El proyecto consiste en recuperar todas estas semillas nativas y criollas.
Le projet consiste à récupérer toutes les semences natives et créoles qui sont importantes pour la souveraineté et la sécurité alimentaire des communautés. Elles font partie des systèmes de production traditionnels et font partie de leur identité culturelle.
Lo que venimos haciendo también.
Ce que nous faisons, c'est reconnaître et valoriser le rôle des gardiens de semences, de ces personnes qui font un travail quotidien pour conserver les semences, les produire, les semer, mais également d'améliorer leurs caractéristiques génétiques. Parce que le travail qui se fait ici sur les connaissances concernant la reproduction des plantes n'est pas bien reconnu. Et puis aussi, en continuant sans arrêt de planter les semences, ils font en sorte qu'elles soient toujours adaptées aux conditions locales. C'est un travail très important.
Quel est l'intérêt en fait de ces semences traditionnelles? Pourquoi les conserver par rapport à des semences industrielles qu'on dit souvent plus productives?
Bueno, en términos de la productividad. Nosotros lo que decimos es que las semillas.
En termes de productivité, nous disons que les semences traditionnelles, natives et créoles, comme elles sont adaptées aux conditions environnementales, sont peu sensibles aux conditions climatiques. Elles produisent toujours. Et elles produisent un minimum de graines qui garantissent que ces communautés ne vont pas souffrir de faim par manque de semences.
Et quand il y a des conditions favorables.
Et quand il y a des conditions favorables, elles ont une bonne productivité, un très bon rendement. Pas aussi élevé que les variétés industrielles, mais il faut tenir compte du fait que ces semences ne demandent aucun traitement particulier, aucun apport, aucun fertilisant, et qu'elles sont cultivées d'une façon traditionnelle.
Aquí lo que tratamos es de que à partir.
Ici, ce que nous essayons de faire, à partir des connaissances ancestrales qu'ont les communautés sur la façon de cultiver les semences, c'est de montrer qu'il est possible d'améliorer la productivité avec des engrais biologiques, avec des préparations faites à partir de plantes et avec d'autres connaissances traditionnelles.
Est-ce que du coup, comme ces variétés sont très adaptatives, en fait, est-ce qu'elles sont, selon vous, mieux adaptées en fait au changement climatique en cours que les semences industrielles?
Bien sûr, c'est une des idées de ce processus de récupération des semences traditionnelles. C'est que dans le futur, la réponse de ces semences au changement climatique sera sans doute bien meilleure qu'une semence améliorée. Et c'est une bonne réponse aux produits phytosanitaires chimiques. Parce que la base génétique qu'ont nos semences natives et créoles leur donne une capacité de résilience plus importante.
Nous nous dirigeons à présent vers Rio Sucio, au sud de Pereira. C'est là que nous rencontrons l'une des gardiennes de semences, Maria Velma González, une jeune femme convaincue par la nécessité d'agir pour préserver les semences locales. Elle croit profondément en la création d'un réseau pour partager ses semences. Mais qu'est-ce qu'une maison des semences exactement ?
Una casa de semillas, pues para nosotros, más que tener un banco de semillas.
Une maison des semences pour nous, c'est bien plus qu'une banque de semences. C'est un lieu et un moment de rencontre des gardiens pour partager les semences et les connaissances. Le gardien des semences est un agriculteur très spécial qui a pris l'initiative de prendre soin, de conserver, de récupérer, de multiplier et de partager les semences traditionnelles et les connaissances qui leur sont associées.
Quelle est la finalité de cette maison des semences ?
Si nous faisons tout cela pour conserver les semences, c'est parce que notre territoire a perdu beaucoup de semences traditionnelles. Parce que durant les 50 dernières années, nous avons eu un modèle agricole de révolution verte qui a changé la manière de penser notre agriculture traditionnelle et a mis en place un système d'agriculture d'agronégoce, c'est-à-dire produire plus pour le marché d'exportation que pour assurer notre souveraineté alimentaire. Ça a généré un changement culturel, un changement dans la façon de considérer l'agriculture. Beaucoup de semences ont donc été perdues parce que les agriculteurs ont copié un modèle venu de l'étranger et ont abandonné l'agriculture traditionnelle. Cela a conduit à faire beaucoup de monocultures, principalement de café et de canne à sucre, et à perdre beaucoup de variétés que nous avions pour notre alimentation.
On a donc une grande armoire en fait que vous venez d'ouvrir dans laquelle il y a plein de bocaux avec à l'intérieur différentes semences. Il y en a beaucoup, il y a 1, 2, 3, 4 étagères remplies de bocaux de type bocaux à confiture hein, qui sont remplis de semences avec des numéros dessus, 99, 87, c'est quoi ?
C'est un inventaire que nous faisons des différentes variétés de haricots ici sur notre territoire, mais aussi d'autres que les gardiens, à travers les trocs, les échanges, ont apporté d'autres régions. On fait un exercice de caractérisation des haricots pour avoir des informations sur chacun d'eux, comment on les cultive, comment ils se comportent, s'ils produisent beaucoup ou peu, s'ils sont sensibles aux maladies dans les champs et aussi au climat, c'est-à-dire au changement climatique.
Alors, est-ce que là, je prends un bocal, ça ensuite, ça va rester ici. En fait, vous constituez une sorte de banque de semences.
Non, nosotros las estamos renovando. O sea, nosotros si queremos tener.
Non. Nous la renouvelons. Nous voulons les avoir ici pour faire des exercices pédagogiques, pour que les personnes qui nous rendent visite les connaissent. Nous avons ici un petit terrain pour que nous puissions multiplier les semences. Les semences doivent être cultivées, c'est la meilleure manière de les préserver. Sinon, les semences mourraient et seraient perdues.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Saber ancestral, sembrada por campesinos de manera natural, comamos sabor regional.
Llegamos. Mano Tobías, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, gracias.
Mi nombre es Tobias de Jesús Velasco Morales.
Je m'appelle Tobias de Jesús Velasco Morales, de la communauté de Guamal.
Défenseur de las semillas naturales.
Je suis un défenseur des semences traditionnelles et ancestrales de notre réserve indigène.
C'est important de défendre les semences naturelles.
Para nosotros es vida y salud.
Pour nous, c'est la vie et la santé, parce que nous dépendons de toute la nature qu'il y a dans notre terre et nos forêts, parce que c'est notre nourriture.
Pourquoi utiliser des semences naturelles, traditionnelles, plutôt que des semences industrielles qui vous permettraient d'avoir plus de récoltes ?
La culture que tenemos es que no nos interesa volvernos ricos.
Dans notre culture, ça ne nous intéresse pas de devenir riches. Mais nous voulons avoir une longue vie et que, comme nous, nos fils et nos filles qui viennent après nous s'alimentent de façon naturelle et qu'ils aient une vie saine pour le futur de leur famille.
Alors ici, on a plein d'haricots en fait différents. Enfin, ça ressemble en tout cas à des haricots. Quel est l'intérêt d'avoir autant de variétés de haricots.
Para mí es muy importante tener todas estas variedades porque
pour moi, c'est très important d'avoir toutes ces variétés parce que nous ne savons pas quand elles pourraient disparaître. C'est pour ça qu'on nous appelle les gardiens. C'est précisément parce que nous défendons toutes ces semences qui fournissent à manger. Nous les conservons et nous en prenons soin.
Conservamos y las cuidamos.
Alors qu'est-ce que vous faites de toutes ces semences après? Là, vous les replantez, vous les donnez, vous les vendez?
Nous avons une vision naturelle et culturelle. Les semences sont destinées à être partagées. C'est pour le bénéfice des communautés.
Alors je vous propose qu'on aille faire un tour dans votre champ et que vous nous montriez un petit peu quelques-unes des variétés qui sont issues de ces semences.
Ah oui, bien sûr, on peut aller voir les cultures. Bien, alors on va par là voir la fameuse cardamone, qui est une plante bonne pour donner de l'énergie et pour la santé. Les gens la consomment et tirent des produits de cette plante. Voilà, c'est la fameuse cardamone. Elle se cultive en temps de lune, comme c'est le cas en ce moment. On la taille pour qu'elle produise mieux.
Ce qui me frappe ici, c'est qu'on a des plantes absolument partout. On a presque l'impression en fait, d'un espace naturel que les choses poussent comme ça, alors qu'en fait, elles sont cultivées. Donc, tout autour de nous, là, on voit beaucoup de bananiers. Vous travaillez également avec la Maison des Semences dans le cadre du projet Resimina. C'est important pour vous d'avoir un lieu d'échange comme ça avec les autres paysans pour pouvoir échanger ces semences traditionnelles.
Et Ave Maria, para eso a mí.
Bien sûr, c'est très important parce que je travaille avec beaucoup de soutien et beaucoup d'optimisme. Ce que je produis ici, c'est pour la consommation de ma famille, pour le vendre sur le marché biologique, pour les foires aux semences et aussi pour la Maison des Semences. Ici, c'est une plante médicinale, la veterina. C'est une plante qui est bien adaptée au climat chaud. Nous l'utilisons pour la santé des animaux, mais aussi des êtres humains.
Quel est l'intérêt en fait pour vous par rapport aux autres de les conserver?
Je sais que les autres, ça ne les intéresse pas. Ils disent que nous vivons dans le passé, que nous sommes en retard sur notre temps. Nous pensons que nous ne vivons pas dans le passé. Nous faisons ce que nos ancêtres ont fait toute leur vie. Ils pensaient que toute la médecine venait du sol et ils se soignaient avec les plantes. Nous essayons de maintenir cette plante parce que si elle disparaissait ici, elle n'existerait plus dans aucun autre endroit au monde. C'est pour ça que nous défendons ces semences. Ces plantes sont naturelles et n'existent plus en dehors des endroits où les gens comme moi les conservent. Nous vivons avec les plantes, les petits animaux qui vivent sous la terre, les micro-organismes. Nous défendons l'écosystème et nous conservons ces produits naturels.
Tobias et sa bataille pour une agriculture naturelle et saine. Qui lui succédera? Les enfants des paysans préfèrent aujourd'hui souvent chercher des emplois plus rémunérateurs dans les activités minières ou en ville. Qui pourrait leur reprocher? Et c'est peut-être l'une des plus grandes menaces actuelles pour les semences traditionnelles. Avec aussi bien sûr le maïs transgénique dont la culture est autorisée en Colombie. Seules les réserves indigènes qui bénéficient d'une certaine autonomie l'ont interdit sur leur territoire. Mais le maïs traditionnel pourrait pourtant être contaminé par la présence de transgéniques tout proches. C'est précisément à la visite d'un champ de maïs traditionnel ou créole que nous convie Rimberto Rodriguez.
On va voir ce maïs?
Si, si, ahorita mismo vamos a ver el maïs.
Oui, oui, nous allons voir le maïs.
On a devant nous un champ de maïs. Donc ça, c'est du maïs créole, là.
Sí, es maíz criollo. Esta variedad.
Oui, c'est du maïs créole. Cette variété, c'est du maïs Lomo Bayo, une des 25 variétés que nous avons dans la réserve.
On voit un champ comme ça quand on ne connaît pas. Qu'est-ce qui fait que vous reconnaissez que c'est bien un champ de maïs créole ?
La différence de ce maïs sur le plan physique par rapport aux autres, c'est que les plants de maïs ont besoin d'être semés à une distance de plus de 1 mètre des uns des autres pour qu'ils puissent se développer.
D'accord, c'est pour ça qu'on a l'impression effectivement dans un champ de maïs qu'on connaît habituellement plus en Europe, où les plants sont très serrés. Ici, en fait, les plants sont très espacés, en fait.
Sí, esa es una de las diferencias entre los cultivos de maíz criollos.
Oui, c'est une des différences de la culture du maïs créole. Ils ont besoin d'être séparés. D'abord parce que nous ne faisons pas de monoculture. Nous faisons des cultures associées. Ici, on peut voir qu'il y a d'autres plantes à côté des plants de maïs.
Alors, ce qu'on voit là, la plante, par exemple, justement, là, on a une plante, une petite plante devant nous avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles. Qu'est-ce que c'est que cette. Donc, c'est une petite plante qui est vraiment. Elle fait quoi, 30 cm hein?
Ce que nous voyons ici, associé au maïs créole, c'est du manioc. C'est une plante qui est aussi originaire de notre région et que nous avons conservée durant plus de 1000 ans.
Alors là, pour le coup, elles sont plantées vraiment très près là, du plant de maïs.
Oui, très près. Elles aiment être associées avec cette variété de maïs. Et nous avons l'habitude de planter une autre plante qui s'appelle l'igname.
On peut
aller le voir. On va descendre dans le champ. Alors c'est cette feuille, ce sont ces feuilles là un petit peu oblongues qu'on voit là. Ça ressemble un petit peu, pour ce que je connais, à du liseron. Alors, à quoi ça sert finalement de mettre ces autres plantes juste à côté du plant de maïs ?
Bueno, esto sirve porque ya sea por la condición de que el maíz.
Eh bien, parce que le maïs sert à soutenir l'igname. Il lui sert de tuteur. Parce que l'igname produit ses tubercules sous la terre uniquement s'il trouve quelque chose pour grimper. C'est aussi une pratique de nos ancêtres que nous avons perpétuée. Le maïs sert à l'igname et l'igname sert aux paysans, en créant un couvert végétal qui empêche le développement des herbes sauvages. C'est aussi le rôle du manioc. Ils empêchent ces herbes de se développer.
Alors, je me retourne derrière, là. On a d'autres maïs, hein, juste derrière, là. D'une part, il est petit. D'autre part, si je regarde ce maïs, il est mangé par des insectes. Les feuilles sont complètement trouées. Et puis on voit sur le maïs lui-même, il y a des petites taches, noires. Et puis on voit un petit insecte d'ailleurs qui est dessus. Donc il n'y a pas du tout d'intrants ici. Comment ça se passe pour avoir quand même une récolte suffisante quand on voit un maïs qui est aussi attaqué par les insectes?
Nous disons que les maïs font partie de l'être humain parce que nous faisons partie de la nature. Nous sommes vivants comme les plantes. Et autant les hommes que les plantes, nous dépendons du temps, de l'eau, de l'air et de la lumière.
Estos insectos que atacan a estas plantas de maíz.
Contre ces insectes qui s'attaquent au maïs, nous n'utilisons aucun insecticide pour les tuer.
Nosotros decimos que a veces las plantas de maíz son atacadas y son perforadas.
Parfois, la plante est attaquée et ses feuilles sont trouées par une chenille qui s'appelle la légionnaire d'automne et qui mange les feuilles ou le cœur de la tige. Mais ça se produit uniquement avec la sécheresse. Quand l'eau arrive, c'est elle qui sert d'insecticide, parce que l'eau s'infiltre dans le cœur de la plante, et le ver, s'il veut survivre, doit obligatoirement sortir sous peine de se noyer. On n'utilise donc aucun insecticide, parce que la nature elle-même, et dans ce cas-là, l'eau, est un insecticide pour la plante.
Donc la plante, c'est assez extraordinaire je trouve, mais la plante a la capacité en fait de se défendre elle-même. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, on va rentrer dans le champ de maïs. On continue à avancer dans le champ de maïs avec des plantes là, qui sont beaucoup plus hautes pour le coup. On est devant un plant de maïs qui est sans doute arrivé à maturité, il fait plus de 2,50 m. Et là, on a affaire à une plante qui paraît très saine.
Oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Elle est tellement habituée à être associée avec les autres plantes qu'aucune d'elles ne porte préjudice aux autres. Tu peux voir, comme je te l'ai dit, comme la plante d'igname, qui est une sorte de liane, s'est enroulée sur la tige de maïs et est arrivée jusqu'en haut, sans produire aucun dommage à celui-ci. Parce qu'elles sont faites pour vivre ensemble et parfaitement adaptées l'une à l'autre. Alors que les maïs industriels ne peuvent pas être associés parce qu'ils n'ont rien à voir avec d'autres plantes.
Ce qui frappe aussi ici, c'est que finalement, on a des maïs de différentes tailles qui sont à différents stades de croissance. On a plutôt l'habitude de voir des maïs qui sont tous de la même taille et pour qu'ils soient récoltés ensemble. Donc ce n'est pas le cas ici.
Le maïs industriel est fait pour que les plants produisent tous en même temps, pour qu'ils soient tous récoltés en même temps, contrairement au maïs créole. Pourquoi ? Parce que nous ne mangeons pas qu'une seule journée. Nous mangeons tous les jours. Ici, il y a du maïs avec des épis qui ont déjà des grains. Il y en a d'autres qui ne donneront que dans 15 ou 20 jours. Il y en a d'autres qui ne donneront que dans 45 jours. De sorte que tu as toujours la possibilité de pouvoir profiter d'un maïs bien tendre.
Alors si on peut trouver un maïs qui est arrivé, un épi de maïs qui est arrivé à maturité.
Là, tu vois ici, il est tendre. On va ouvrir l'épi pour regarder.
Et alors là, on peut le manger là directement ?
Oui, bien sûr. On peut le manger comme il est. C'est délicieux, non ?
Ouais, c'est très doux. Il n'y a pas du tout d'amertume. C'est un épi de maïs qui est très fourni aussi. Qui est très agréable à manger, même cru, comme ça.
Au contraire, les maïs industriels sont amers. On voit la différence de saveur. Je ne peux pas le garantir, mais si c'est amer, ça doit certainement avoir un effet sur la santé et le corps de la personne qui mange le maïs.
Désormais, l'inquiétude pour les semences traditionnelles vient aussi de la loi. Non qu'elle les interdise, en fait, seules les semences industrielles ont un statut juridique clair. La loi est floue sur celui concernant les semences traditionnelles. Et cette absence de clarté fait peser une menace. Car sous la pression des semenciers comme l'américain Monsanto ou le canadien Syngenta et le traité de libre-échange avec les États-Unis, leur circulation pourrait être réduite, voire interdite. Mais on peut faire confiance aux paysans de Colombie pour résister et en assurer la défense, car elle constitue pour eux un patrimoine inestimable.
Pourquoi c'est si important pour vous de préserver ces semences traditionnelles ?
Parce qu'elles font partie de notre culture. Ce n'est pas seulement un grain de maïs ou un haricot que nous mettons dans l'assiette pour nous nourrir, mais c'est toute une histoire, toute la culture d'un peuple qui s'est forgée avec l'alimentation, et cette alimentation est basée sur ces semences. Ce n'est pas seulement une question de nourriture, ce sont aussi les semences qui prennent soin des forêts, les semences qui soignent les animaux, les plantes médicinales qui soulagent nos maladies, les plantes que nous utilisons pour l'artisanat, qui nous servent pour construire nos habitations, nos vêtements, nos outils. Pour nous, les semences traditionnelles, c'est tout cela. Toute la culture, tout notre passé et tout notre futur, parce qu'elles font partie de ce que nous sommes.
Avec ce projet de réseau de maisons des semences, vous pensez que c'est plutôt bien parti pour les semences traditionnelles, qu'elles ont des chances justement d'être préservées ?
Si, pues el trabajo que nosotros estamos haciendo.
Oui, le travail que nous faisons ici, c'est offrir la possibilité de produire nos semences sur nos territoires, de satisfaire les besoins de semences de nos agriculteurs, mais aussi la possibilité de partager avec d'autres organisations dans d'autres régions du pays et du monde. Parce que nous voulons que les semences puissent circuler librement, qu'elles soient dans les mains de tous. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de le faire à travers ce réseau qui est en train de se construire, qui est en train de grandir. Et la La construction du réseau des maisons des semences, c'est quelque chose qui nous rend plus forts, qui nous aide à nous unir. Nous sommes plus efficaces ainsi. Pour cela, nous voulons que ce projet se développe afin de pouvoir réellement distribuer suffisamment de semences sur nos territoires et qu'elles ne se perdent pas.
Y a su compás las pilanderas vienen bailando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando
esta cumbia colombiana.
Ay, que todo el mundo está bailando
esta cumbia colombiana.
Del mar se siente el grito de un negro triste que canta sus amores y de su raza cumple el rito con esta cumbia de gaitas y tambores. Todo el mundo está bailando
esta cumbia colombiana.
Ay, que todo el mundo está bailando
esta cumbia colombiana.
Cantando así muy suavecito vienen bailando la cumbia colombiana.
Cantando así muy suavecito
vienen bailando la cumbia colombiana.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
On voit bien que nos progrès techniques ont amené problèmes graves, dont vont particulièrement souffrir sûrement les pays du Sud, mais les pays du Nord aussi. Mais tous les pays actuellement ont des difficultés énormes à mettre en œuvre les techniques qui permettraient d'éviter les catastrophes. Et c'est une des grosses difficultés de notre espèce, c'est que justement, du fait de ce progrès, elle se croit tout permis, elle croit que tout est possible. Or, je pense qu'il faudra bien qu'on apprenne à se fixer des limites.
Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Un reportage de Pierre Lefebvre, réalisé par François Porcheron. Jean-Paul Sikeli, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage où on entend la mobilisation des paysans colombiens pour préserver leurs semences, où ils expliquent que c'est un enjeu de résilience face au dérèglement climatique, que c'est un enjeu essentiel de sécurité alimentaire? On voit bien qu'ils ont mis en place des réseaux de partage. Est-ce qu'on a un peu des états d'esprit similaires en Afrique de l'Ouest?
Bien entendu, je pense que cette expérience colombienne est très bien ressentie, elle est intéressante dans la mesure où, comme je le disais, elle vise à préserver les semences traditionnelles, les semences paysannes, qui sont le socle, en fait, de la souveraineté alimentaire. Et donc, effectivement, en Afrique, il y a une certaine conscience qui est en train d'émerger autour de cette question-là, des enjeux autour des semences paysannes. Et tout comme en Colombie, je crois qu'ils sont en train de multiplier l'expérience des maisons de semences. Ici, en Afrique aussi, il y a aussi des initiatives de ce genre autour des cases de semences paysannes. Donc, je pense que c'est ce genre d'initiative méritait d'être accompagnée, développée, dupliquée partout en Afrique. Et il faudrait encourager l'essaimage de ce genre d'initiative pour que réellement la souveraineté alimentaire ne soit pas simplement une vue de l'esprit, mais que ça soit réellement quelque chose de possible à réaliser. Donc, je pense que l'expérience colombienne mériterait d'être acclamée, d'être applaudie, Et en Afrique, je pense que les paysans ont suffisamment conscience de la nécessité de préserver la semence.
Alors Issouf Sanou, je rappelle que vous êtes le coordinateur de la Fédération nationale des organisations paysannes du Burkina Faso. Vous avez aussi écouté ce reportage en Colombie. Quelle est votre réaction ?
Quand j'ai écouté ce reportage, vraiment, j'ai beaucoup apprécié les systèmes organisationnels par rapport à la préservation de la semence paysanne et les commentaires qui s'en ont suivis parce que vraiment, on sent une certaine lutte des Colombiens pour ne pas laisser disparaître la vie même du paysan. Parce que qui dit semence dit entièrement c'est la vie, c'est-à-dire un paysan sans semence, même s'il a la terre. Et je pense que au niveau du Burkina, en tout cas pour le moment, il y a des initiatives de ce genre, c'est pas très développé. L'État, nos gouvernements, en tout cas, met l'accent sur la promotion des semences améliorées au détriment en fait des semences paysannes. On dit qu'il relève du secteur informel, on dit qu'il n'est pas qualifié. En tout cas, toutes les insuffisances qui ressortent par rapport à ces semences paysannes. Bon, ici, en fait, nous, on met l'accent beaucoup sur la production, c'est-à-dire à la récolte. Le paysan prélève sa semence. Bon, il y en a qui mettent ça dans des cas de semences. Il y en a, c'est dans des greniers. Il y en a, c'est suspendu à l'arbre, etc. Et pendant l'hivernage, il reproduit pour que la semence ne meure pas.
Après, l'enjeu, c'est évidemment de défendre ces semences paysannes, notamment contre les multinationales qui sont en train de lorgner de près sur le continent africain. Je le disais en introduction, 75% du marché mondial des semences est détenu par une dizaine de multinationales, hein, comme Bayer Monsanto, DuPont, Limagrain ou Syngenta, des entreprises très offensives. Je vous propose d'écouter la mise en garde de l'écologiste indienne Vandana Shiva, qui vient de publier Qui nourrit réellement l'humanité chez Actes Sud.
Well, the first thing is when you hear Syngenta, you don't realize that.
Alors, vraiment, parfois, on ne se rend pas compte que quand on dit Syngenta, il s'agit en fait de Cibin, de Sandoz. À l'époque, ils étaient Cibin et Sandoz. Et ces sociétés se sont fait leur argent en vendant les produits chimiques pour la guerre, destinés à la guerre. Et puis après, quand la guerre a cessé, ils se sont tournés et ces mêmes produits chimiques sont devenus des herbicides, etc. Et à partir des années 80, ils ont décidé de se mettre aux semences, de s'approprier les semences, de percevoir des royalties à partir de ces semences.
And basically they said we have to do genetic engineering.
Après les produits chimiques, comme j'ai dit qu'ils vendaient pour l'agriculture, maintenant ces sociétés veulent s'approprier les semences à travers l'ingénierie génétique. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie génétique? C'est de prendre des gènes qui n'appartiennent pas à la catégorie de plantes et de les injecter dans les plantes. Et dire après que bon, nous avons inventé ces graines et donc nous sommes les propriétaires de ces graines. Et devenant propriétaires des graines, ils élaborent des lois pour le brevetage, des lois qui rendent illégal pour les paysans et les fermiers de vendre des graines et aussi de passer à l'échange de graines entre paysans. Alors, en ce qui s'agit de ces multinationales qui les font, par exemple, quand je dis qu'ils ont créé des lois, Monsanto, on peut dire que l'accord OMC, c'est vraiment l'accord Monsanto, parce que c'est Monsanto qui a tout conçu et tout fait. Et puis, quand on parle de l'accord sur le commerce et l'agriculture, on peut dire que c'est l'accord Cargill, parce que c'est l'ex-président de la société Cargill qui a formulé ça. Ce que ces multinationales cherchent à faire, donc, c'est de contrôler complètement la semence. Et à travers cela, ils veulent garder le monopole des graines, ils veulent garder le monopole du système alimentaire. Et donc, tout ça, c'est entre leurs mains.
Et ça menace donc notre sécurité alimentaire. Est-ce que ces menaces sont différentes si on est européen ou si on est africain ?
The first thing is that
Oui, c'est sûr que c'est une menace pour la sécurité alimentaire, mais c'est aussi une menace pour le système démocratique. Parce qu'à ce moment-là, les États sont contrôlés par ces multinationales qui vendent les graines et s'approprient le système alimentaire. C'est aussi une menace pour la santé, comme le professeur Cerulini de la France a fait ressentir. Il y a la possibilité de développer des tumeurs, entre autres choses.
And the threat is not different for Africa or Europe. Why is the threat the same?
La menace ne sera pas différente, qu'il s'agisse de l'Afrique ou de l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que la menace est la même? Parce que tout comme en Europe, on est en train de porter atteinte aux lois qui concernent la sécurité biologique. En Afrique également, c'est la même chose. En Afrique, il y a une attaque en vue de créer un monopole en instaurant des lois concernant les semences, ce qu'on appelle une harmonisation des lois de semencières. Et cela équivaut à un contrôle des sociétés sur les semences. Et à ce moment, les semences locales, les diverses semences, sont tout à fait menacées.
Jean-Paul Sikeli, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de la COPAGEN, la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain. Est-ce que vous les voyez arriver, ces multinationales, dans les pays d'Afrique de l'Ouest?
Tout à fait, elles sont très offensives sur le continent africain. Elles opèrent généralement par l'imposition de normes juridiques, de politiques à leur bénéfice, à leur profit. Et globalement, on peut catégoriser les lois sur les semences en quatre sections. Il y a les lois sur les droits de propriété intellectuelle, les lois sur les OGM, les lois sur les ressources génétiques et les lois sur la commercialisation des semences. Mais toutes ces lois-là sont taillées sur mesure, comme je le disais, au profit des multinationales. Alors, par exemple, les lois sur la commercialisation, ces lois-là disent que tant qu'une variété n'est pas inscrite au catalogue, elle ne peut pas être vendue, elle ne peut pas être mise sur le marché. Or, pour que cette variété-là, une variété puisse être inscrite au catalogue semencier, il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères qu'on appelle les critères DHS, c'est-à-dire distinction, stabilité et homogénéité. À la réalité, les semences paysannes dites, variétés populations n'acceptent pas à ces critères-là. Donc, du coup, elles ne peuvent pas être vendues. Donc, nous pensons qu'ici, il y a une injustice. Et sur les droits de propriété intellectuelle, les lois disent que pour que les semences soient brevetées, il faut qu'elles respectent le même critérium, c'est-à-dire, à l'exception qu'ici, il y a un autre critère qui s'ajoute, c'est la nouveauté. Donc, nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité. Et sous ces droits de propriété intellectuelle, on restreint les droits des agriculteurs à utiliser librement leurs semences. Alors, un obtenteur qui obtient, par exemple, un certificat d'obtention végétale sur une semence qu'il a travaillée à partir d'une semence paysanne, il peut imposer des restrictions sur cette semence-là. Il peut interdire au tiers d'utiliser cette semence-là. Donc, nous ici, nous pensons que c'est une façon de subtiliser en fait les ressources des communautés. Parce qu'en réalité, c'est depuis des millénaires que les paysans ont eu à sélectionner, à travailler dans leurs champs de façon continue, de façon ardue, ces semences-là. Et aujourd'hui, les lois de l'UPOV, les lois sur les droits de propriété intellectuelle dans le cadre des accords de l'OMC donnent le droit, un droit illégitime, je pourrais le qualifier ainsi, aux obtenteurs d'imposer les droits de propriété qui restreignent les droits des agriculteurs à utiliser librement leurs semences, c'est-à-dire produire, reproduire, échanger et vendre. Donc, nous pensons qu'ici, il y a une injustice. Plus grave, c'est les brevets qui sanctionnent la richesse sur les OGM. Aujourd'hui, les OGM sont en Afrique, et les institutions communautaires telles que la CEDEAO, l'UEMOA, un mouvement d'harmonisation et c'est tant bien que mal d'imposer une réglementation communautaire pour faciliter la circulation des OGM en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est autant de faits que nous dénonçons parce que en prime, ce sont les droits des communautés, les droits des agriculteurs qui sont violés. Et nous disons que c'est vraiment une injustice, c'est vraiment inique.
Mais l'agriculture, je le rappelle, hein, quand même, représente un tiers de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. C'est la principale source de revenus pour 70 à 80% de la population. Du coup, c'est un enjeu politique colossal. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'y ait pas une volonté politique de défendre cette ressource de base qui est la liberté de circulation des semences, qui est un enjeu essentiel pour la sécurité alimentaire des pays?
Oui, c'est là le paradoxe renversant que connaissent les pays africains. Parce que l'agriculture, comme vous l'avez dit, génère des revenus, génère la nourriture et en même temps, les politiques n'arrivent pas à se positionner sur cet enjeu-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de laxisme au niveau des pouvoirs publics, mais il y a aussi que la corruption, en fait, engraine beaucoup les politiques en Afrique. Donc, c'est des aspects que nous voyons, que nous dénonçons. Parce qu'en réalité, l'agriculture, qui est le levier de développement, devait être en réalité accompagné autant que possible de façon conséquente par les pouvoirs publics. Quand vous regardez, par exemple, les accords de la déclaration de Maputo qui dit qu'il faut attribuer au moins 10% du budget des États à l'agriculture, et quand vous regardez la panoplie des États, il y a très peu d'États en Afrique qui respectent en fait les clauses de la déclaration de Maputo. Donc nous pensons que c'est vraiment un manque de vision pertinente de la part des pouvoirs publics sur notre topique.
Écoutez, on aura au moins posé les enjeux du débat dans cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé en acceptant de jouer le jeu de la radio virtuelle en cette période de confinement. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour vos nombreux messages. Pour bien comprendre ce qui se joue autour de cette crise sanitaire que nous traversons, vous pouvez podcaster nos émissions et partager vos réactions. Prenez soin de vous et des vôtres, surtout en ce moment. Et je vous dis à la semaine prochaine, même planète, même heure. Say we want to help our community, help farmers grow more food. But all you sell to us is lies. You're only looking out for you. You say it's all about the children, yet you feed them pesticides. Know that it's all about your profits. Because of you, too many die. Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on earth. Monsanto, go away, go away, go away. You are trespassing on our land. All about democracy, then you interfere with our political process. Well, you may have fooled some politicians, yeah, you may have given them some money, but this is not Washington, D.C. You cannot bully this community. We are much stronger than you think we are. We are everywhere and we know who you are. Monsanto, go away, go away, go away. You are not welcome on our land. Monsanto, go away, go away, go away. You are trespassing on our land.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. L'épopée des musiques noires.